Appel sur l'actualité.
Émission spéciale.
Juan Gomez.
Et nous sommes de retour, toujours à Addis Abeba pour la deuxième partie de cette émission spéciale en compagnie d'Alpha Omar Konaré, président de la Commission de l'Union africaine. Encore merci, monsieur le président, d'être des nôtres, d'accepter ce dialogue avec les auditeurs d'RFI, des auditeurs qui vont continuer jusqu'à 9h, temps universel, à vous interpeller sur les grands dossiers qui ont dominé votre présidence. Rappelons que nous sommes maintenant à 3 jours de la fin de votre mandat. On va repasser très vite au standard car des dizaines et des dizaines d'auditeurs souhaitent dialoguer avec nous. Denis est à Kinshasa. Bonjour Denis.
Bonjour Monsieur Juan Gomez. Okay, ma question porte sur l'intervention de l'Union africaine au Comores. Hein. Le mois passé, nous savons que l'Union africaine a, par l'opération Restaurer la démocratie au Comores, ils ont mené une intervention au Comores. Alors je voulais savoir si cette intervention concrétise la notion d'intervention humanitaire ou nous assistons plutôt à la naissance d'une coutume internationale africaine. Alors, si tel est le cas, pourquoi cette règle ne s'appliquerait-elle pas à d'autres pays africains qui connaissent la même situation comme notre pays, la RDC, avec les rebelles Kindabatware, ou au Zimbabwe, où la démocratie est en danger et
que... Alors, monsieur le président, c'est vrai que c'est la première fois que l'Union africaine soutient une opération militaire pour chasser du pouvoir un homme dont la réélection, finalement, n'a été reconnue par personne. Déjà, comment expliquer cette première ?
Je pense que nous devons désormais veiller à ce que dans tous nos États, le droit prime. Nous-mêmes, sur le dossier des Comores, à plusieurs reprises, j'ai indiqué qu'il fallait que le droit s'impose ou que le droit soit imposé. Nous avons tout fait pour que le droit s'impose par le dialogue, par la négociation. Mais vainement. Nous n'avions pas d'autre issue que d'imposer le droit pour éviter que le pays n'aille vers l'aventure, que le pays n'aille vers le désordre.
À terme, maintenant, ça veut dire qu'à terme, il y aura jurisprudence.
Je souhaite qu'il y ait jurisprudence. Évidemment, les cas ne sont jamais exactement similaires. Je rappelle d'ailleurs, et on l'oublie, qu'il y a eu un cas d'intervention au Lesotho il y a quelques années. C'est vrai qu'il y a eu des situations où on aurait dû intervenir. Pour ma part, je ne suis pas contre le principe d'intervenir, mais à condition, je dis bien, que toutes les voies soient explorées, à condition que cela se fasse dans la transparence et que l'opinion publique soit d'un bout à l'autre informée régulièrement de ce qui se passe.
Jean est avec nous, il nous appelle de Douala, au Cameroun. Jean, bonjour.
Bonjour, bonjour Juan.
Nous vous écoutons.
Bonjour, bonjour Monsieur Alpha Konaré.
Bonjour.
Je vais plutôt, ma question va s'accentuer sur votre personne elle-même. Alors, je sais que vous êtes ancien président du Mali et que vous avez respecté la constitution de votre pays. Après 10 ans, vous êtes parti du pouvoir sans problème. Alors, moi, je suis un peu déçu que pendant toute votre présence à la tête de l'UEA, vous n'avez pas fait la promotion de ce respect de la Constitution et surtout de l'alternance rapide au pouvoir. Dans nos pays, nos chefs d'État, moi je suis Camerounais, nos chefs d'État manipulent la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Dans d'autres pays, ça s'est passé. Et ailleurs, des chefs d'État fraudent en permanence. Mais vous, qui avez donné un certain exemple, je suis surpris que vous n'avez pas fait la promotion de ce respect de la Constitution et surtout de l'alternance rapide. Est-ce que vous pensez donc que l'alternance rapide au pouvoir n'est pas une bonne chose?
Alors parlons d'abord des révisions des constitutions. Jean de Douala fait référence au Cameroun qui effectivement a révisé récemment sa constitution pour permettre au président Paul Biya de briguer autant de mandats qu'il le souhaite. L'opposition camerounaise a parlé de coup d'état déguisé. On ne vous a pas entendu.
Tout à l'heure, un de vos auditeurs a parlé de nos amitiés. Ce n'est pas exactement ce cas ici, mais nos amitiés ne nous ont jamais empêchés de nous exprimer et de dire la vérité, de parler fortement, publiquement de le faire, mais parler aussi la façon de le faire, les conditions dans lesquelles on le fait, cela compte beaucoup en Afrique. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez dire, vous pouvez faire beaucoup d'interventions sans que cela ne puisse être public, et nous avons utilisé très fortement ce canal, dans beaucoup d'occasions. Les changements constitutionnels, il faut être clair, le plus souvent, c'est le reflet de difficultés politiques de transmission de pouvoir. Mmh. Je pense que nous avons eu à en parler, nous avons participé à des réunions sur les constitutions et nous avons souhaité qu'il y ait des relectures, mais pour consolider le principe de l'alternance. Je ne sais pas ce qu'on entend par alternance rapide. Quand j'ai dit alternance, s'il y a des règles, il faut le respecter. Il ne faut pas changer les règles du jeu.
Mais faire sauter le verrou constitutionnel qui limite le nombre de mandats, ça n'encourage pas l'alternance.
Non, il ne faut pas changer les règles du jeu en cours de parti. Mmh. Mais quand il y a des besoins de changement des règles, il faut le faire dans la transparence et que cela soit connu avant même l'élection du président. Parce que si les règles ne sont pas respectées, si le peuple n'y adhère pas, il y a des risques d'explosion populaire.
Amadou est avec nous, il est en région parisienne. Bonjour Amadou.
Bonjour Juan Gomez.
Nous vous écoutons, bienvenue.
Merci à vous, merci. Bonjour Monsieur le Président Conaré.
Bonjour.
Écoutez Monsieur le Président Conaré, je vous remercie déjà pour le temps consacré à cette émission et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous aurez voulu faire car je sais que vous n'avez pas effectivement la main libre. Monsieur le Président, écoutez, moi j'ai une inquiétude que je vais essayer de transformer en question si vous le permettez bien et elle est la suivante Monsieur le Président.
Je vous en prie.
Ne pensez-vous pas qu'il faille revenir sur les critères d'adhésion de l'Union africaine, de manière à ce que des pays comme le Soudan, notamment avec le drame du Darfour, ne puissent pas postuler à la présidence de l'Union africaine ?
La question courte, oui. Directe.
Et à mon avis, il ne s'agit pas de revenir sur les critères d'adhésion. Ces critères sont liés à l'histoire même de l'organisation. L'Union africaine est un peu l'héritière de l'OUA. Bien sûr, il faut faire de façon critique cet héritage.
De facto, tous les pays sont membres de l'Union africaine.
En 1963, le principal critère, c'était l'indépendance des pays. Tous les pays africains indépendants pouvaient adhérer à l'OUA. Ça a été le cas et l'Union africaine a suivi. Mais dans les textes de l'Union africaine, il est prévu des cas de suspension. On permet même, ce qui n'était pas dans le texte de l'OUA, à des pays de pouvoir se retirer de l'Union africaine. Je pense qu'au lieu de faire des barrières pour l'adhésion, il est peut-être temps aujourd'hui qu'on puisse admettre que des pays puissent être sanctionnés, pas simplement par rapport à des coups d'État et suspendus, pas simplement par rapport à des changements anticonstitutionnels. Mais même quand il y a des violations graves, des problèmes de gouvernance, que ces pays puissent être suspendus et même peut-être exclus.
Mais vous y croyez vraiment dans ce que vous dites ?
Moi, j'y crois. Ouais. Je crois, je pense qu'il faut arriver à cela parce que nos textes ne prévoient pas de sanctions. Vous voyez, par exemple, beaucoup de cas où des textes sont adoptés, ne sont pas ratifiés, des décisions prises ne sont pas appliquées. Il n'y a pas de sanctions. On ne peut pas continuer à travailler dans une organisation quand il n'y a pas de sanctions. Vous me comprenez ? Et maintenant, concernant les problèmes de suspension et de renvoi, je crois qu'il ne faut pas l'exclure. En tout cas, je pense au début à la suspension. Mais je n'exclus pas la révocation, bien qu'il faut voir ça dans le contexte de l'Afrique, du continent Afrique, où même quand un pays est renvoyé, ce pays reste quand même un pays africain.
Alors, Michelo est à Berne. Michelo nous appelle de Suisse. Bonjour Michelo.
Bonjour.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, bonjour Juan, bonjour Monsieur Conaré.
Bonjour.
Oui, ma question était de savoir simplement, au sommet de l'Union africaine d'Accra, au Ghana, il était question, beaucoup question, de la constitution imminente d'un gouvernement fédéral des États-Unis d'Afrique. Et j'aimerais savoir où en est-on maintenant avec ce projet et surtout si ce projet est réalisable et crédible, Monsieur le Président.
Un gouvernement fédéral, un gouvernement africain.
Je pense qu'il y a un acquis important à Accra, c'est qu'il y a eu un consensus autour de l'objectif de l'Union africaine qui est d'aller vers les États-Unis d'Afrique.
Oui.
Mais il reste à préciser la nature juridique
des États-Unis. Parce que certains étaient pour créer tout de suite un gouvernement panafricain et d'autres disaient non, il faut d'abord renforcer les regroupements sous-régionaux.
Il faut d'abord définir la nature juridique des États-Unis d'Afrique et voir les étapes qui peuvent nous conduire à ces États-Unis d'Afrique. Le gouvernement fédéral, ce n'est pas une question nouvelle. Le président Nkrumah l'a posé. Il est certain que cette question se posera à l'avenir, à un moment où l'intégration avancera. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'étape qui peut nous conduire à cela, c'est de donner tous les pouvoirs qu'il faut comme exécutif à la Commission, définir ces domaines. Si la Commission devient un véritable exécutif, c'est un gouvernement. Qu'on l'appelle Commission, qu'on lui donne le nom de gouvernement, mais ce sera le gouvernement de l'Union africaine, mais pas le gouvernement continental fédéral, parce que vous ne pouvez pas installer un gouvernement fédéral si vous n'avez pas proclamé la fédération. Ce débat ne fait que commencer.
Et en même temps, ceux qui disent qu'il faut absolument que l'Afrique parle d'une seule voix, qu'elle soit défendue par une seule voix, notamment concernant les affaires étrangères, concernant le commerce à l'OMC, qu'une seule voix parle au nom de l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas une urgence?
Non, tout cela, c'est extrêmement urgent. Mais tout cela est possible dans le cadre de la Commission. Si on donne un pouvoir exécutif à la Commission, si on définit des domaines de compétences propres à la Commission, par exemple, sur le problème du commerce avec les partenaires, avec les Européens, la Commission s'est exprimée très fortement pour faire des réserves. Mais pendant le même temps, des pays signaient des accords à côté. Ça veut dire que nous n'avions pas de compétences exclusives sur la question. Aujourd'hui, c'est possible.
Ouais. On va passer très vite au standard car les auditeurs sont nombreux et souhaitent dialoguer avec nous. Nous allons tout de suite accueillir Joachim à Ouagadougou. Bonjour Joachim.
Bonjour Joanne.
Bienvenue, nous vous écoutons rapidement.
Oui, je voudrais poser une question à M. Konaré, une question à deux volets. La question la voici. Quelles sont les réformes que l'Union africaine devrait entreprendre pour permettre à l'Afrique d'affirmer davantage son autonomie économique par rapport aux bailleurs de fonds occidentaux? Pouvez-vous me dire si le rapprochement de l'Afrique des puissances émergentes telles que la Chine et l'Inde pourraient résoudre ce problème d'autonomie économique vis-à-vis des bailleurs de fonds et des chefs d'État occidentaux?
Monsieur le Président, vous avez vu ces cinq dernières années effectivement multiplier les partenaires. On n'est plus dans du partenariat Nord-Sud, on est maintenant de plus en plus dans du partenariat Sud-Sud. On pense à la Chine, on pense à l'Inde. Il y a quelques semaines, c'était le premier sommet indo-africain. Pourquoi cette volonté de multiplier les partenaires?
Oui, votre auditeur a parlé tout à l'heure des réformes. Je pense que pour pouvoir bien gérer ce partenariat, il y a des réformes qui s'imposent. Les réformes institutionnelles, des pouvoirs et des compétences à donner à la Commission. Il y a la nécessaire transformation institutionnelle au sein de la Commission, parce qu'à une nouvelle organisation, il faut une nouvelle culture. Il y a le besoin de renforcer les capacités humaines, financières et matérielles de l'organisation. Si nous arrivons à réussir ces réformes, les nombreux programmes que nous avons mis en selle pourront être exécutés. Et parmi ces programmes, il y a le partenariat. Nous sommes partisans d'un partenariat stratégique,
mais pluriel, d'égal à égal, monsieur le Président.
Pluriel, d'égal à égal.
Et avec la Chine, avec l'Inde, c'est un partenariat d'égal à égal pour l'instant?
Avec la Chine et l'Inde, ce sera un partenariat d'égal à égal. Faites-nous confiance, parce que c'est une Afrique responsable qui pose le principe de ce partenariat pour sortir d'un partenariat exclusif avec l'Europe, pour mettre fin à toute tutelle, à toute intermédiation entre nous et nos partenaires classiques. C'est pour cette raison que nous nous tournons vers la Chine, vers l'Inde. En finir avec l'économie de rente, en finir avec l'économie de traite. Simplement, l'Afrique ne peut pas continuer à être un endroit où on vient prendre des matières premières et partir, et on ne peut pas continuer à acheter à vil prix les produits de l'Afrique. Et le partenariat peut nous permettre d'aboutir à ça en jouant sur la concurrence. L'offre et la demande.
4 minutes, Monsieur le Président. Oui, on va terminer avec deux de vos compatriotes. Moussa, qui nous appelle du nord du Mali. Il est dans la région de Kidal. Bonjour, Moussa.
Oui, bonjour, Juan, et bonjour, Konaré.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, permettez-moi de vous poser une question. Avec votre expérience de gestion des crises nationales, donc je voudrais ici faire référence à la rébellion que nous avions vécue entre 1991 et 1996, que vous avez d'ailleurs bravement géré, non seulement en tant que chef de l'État, mais aussi en tant que chef suprême des armées. Monsieur le Président, quel serait votre point de vue par rapport à cette reprise des armes au nord-est de la région de Kidal?
Reprise des armes au nord du Mali depuis pratiquement un an.
Nous avions tous pensé que ce problème était derrière nous. Comme tous les Maliens, je suis très préoccupé par cette situation et j'ai bon espoir qu'on la maîtrisera très rapidement.
Lorsque les rebelles exigent, par exemple, un retrait partiel de l'armée du Nord Mali, est-ce que ça vous semble normal?
Cette demande n'est pas nouvelle. Il ne faut pas l'isoler d'un ensemble. Je pense que cette question devrait être, comme toujours, abordée de façon consensuelle, avec tous les Maliens, de toute tendance, de tout parti politique.
Et avec les pays limitrophes, l'Algérie,
avec les pays limitrophes, la Libye. Savoir jouer sur ces pays-là, parce que ces pays-là peuvent nous aider beaucoup au règlement de cette question. Mais nous devons arriver à avoir avec chacun d'eux des rapports harmonieux, des rapports équilibrés. Je pense que la voie suivie, qui est de privilégier le règlement politique, est essentielle et fondamentale. Et je pense qu'il y a des questions politiques qui doivent être nécessairement réglées, qui est d'approfondir la décentralisation, qui a été un grand moment, en liant ce projet-là au problème de regroupement, de la régionalisation. Je pense que c'est des voies qui peuvent nous aider à régler les problèmes de développement dans cette partie.
Il nous reste 1:30, Monsieur le Président. Amidou nous appelle de Bamako. Bonjour Amidou, rapidement s'il vous plaît. Merci.
Oui, bonjour M. Alphonse.
Bonjour.
Oui, l'opinion publique malienne pense que vous allez revenir sur la scène politique. Vous savez, notre position n'est pas très claire là-dessus. Quel est votre avis?
Alors, qu'allez-vous faire à partir de lundi, Monsieur le Président? Allez-vous retourner, un, au Mali, et de deux, allez-vous retrouver la scène politique malienne?
La passation du pouvoir aura lieu le 28. Dès le début du mois de mai, je serai à Bamako. Un citoyen libre, mais fort de deux titres, ancien président du Mali et ancien président de la Commission de l'Union africaine. Vous savez, je me suis battu au Mali avec des camarades autour de grandes valeurs, des valeurs de justice, des valeurs de solidarité et aussi pour le panafricanisme. Je serai toujours dans l'accompagnement de ce mouvement.
Mais allez-vous vous impliquer dans la vie politique malienne? Si l'ADEMA, le parti politique auquel vous avez appartenu, vous appelle, est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à reprendre la présidence de ce parti?
Je suis dans un combat de valeurs, des valeurs partagées par l'ADEMA et d'autres partis. Je me battrai pour que ces valeurs soient largement diffusées et mises en œuvre.
Mais à vous entendre, vous n'avez rien de concret aujourd'hui, rien de prévu.
Vous savez, il y a un président qui est en place au Mali, qui vient juste d'entamer son deuxième et dernier mandat. Je lui souhaite beaucoup de succès. Pour ce qui me concerne, 2012 n'est pas inscrit sur mon agenda.
Prendre la tête d'une fondation, c'est quelque chose que vous pouvez envisager, comme l'a fait par exemple Kofi Annan, après son mandat aux Nations Unies?
Mon épouse et moi, nous avons de très grands projets. Je pense que apprendre, témoigner, parce que nous avons entendu beaucoup de contre-vérités sur beaucoup de choses toutes ces années, nous allons témoigner, et aussi former, bien sûr, mener un grand combat panafricain. De quelle façon, j'aurai l'occasion une autre fois de vous le dire, parce que le combat pour l'Afrique, c'est le combat de notre génération, c'est le combat de l'avenir, et le combat de l'Afrique, c'est aussi le combat du Mali.
Alphonse Marc-Honoré, merci beaucoup d'avoir accepté ce dialogue avec les auditeurs d'RFI. Avant de nous quitter, je voudrais évidemment remercier toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette émission. Églantine Chabasseur, Camille Deloche, Anne-Claire Grégoire et Claire Tomasella. À la technique, ici à Addis Abeba, il y avait Claude Verlon. À Paris, Christophe Loisel, Jean Dufat, Arès Siradag. Également un grand merci à Jean-Karim Fall qui coordonnait, qui chapeautait un peu évidemment cette émission. Nous serons de retour lundi à Paris à la Maison de la Radio avec notre formule habituelle, vos questions à la rédaction. Et puis en deuxième partie, si vous le permettrez, mais sans vous, hein, Monsieur le Président, nous allons prolonger le débat avec les auditeurs.
Dans 20 ans, Inch'Allah, on fera l'émission en Swahili.
Ah, dans 20 ans, ah oui, parce que je sais que c'est un de vos combats, c'est effectivement.
Mon combat pour en faire une langue panafricaine, la langue panafricaine.
En tout cas, lundi avec les auditeurs, nous parlerons des attentes pour le mandat de Jean-Ping. Jean-Ping qui prendra ses fonctions évidemment lundi en tant que président de la Commission de l'Union africaine. Merci.
Si nous l'aidons,
encore,
il réussira et nous l'aiderons, Inch'Allah.
Inch'Allah. Merci à tous, très bon week-end et merci de votre fidélité.